Je crois qu'il y a deux raisons. La première, c'est que pour sortir de la crise, il y avait une exigence de la communauté internationale qui voulait que l'un et l'autre protagoniste s'abstiennent d'aller à l'élection. Rajoelina, il n'est pas arrivé au pouvoir dans des conditions démocratiques, il a reçu un pouvoir. Donc pour les Nations Unies et l'Union africaine, il n'est pas en mesure de se présenter. La deuxième raison, c'est que dès qu'il a reçu le pouvoir en mars 2009, il avait annoncé qu'il ne se présenterait pas à une élection, que son but était de donner les conditions d'un changement et d'une entrée dans la 4e République. Il a réitéré cette promesse en 2010 et en 2012. En 2013, il tient cette promesse. Voilà les deux raisons, je pense.
C'est pas une surprise, cette décision.
C'est une surprise pour beaucoup qui regardent les choses en surface. C'est vrai que les hommes politiques, Yaskar comme ailleurs, mais ici en particulier, sont réputés pour être de mauvaise foi. Pour une fois qu'un homme politique tient parole, pourquoi ne pas se réjouir? Il faut lui laisser le mérite d'avoir opté pour cette solution-là. Il aurait très bien pu, parce que beaucoup dans son entourage le poussaient à se présenter, il aurait pu le faire. Et je pense qu'il aurait même eu quelques chances d'être élu. Alors les justifications, bien sûr, j'allais dire pour la galerie, qu'on parle de patriotisme, ok. Mais je pense aussi que c'est un homme relativement jeune, il a 38 ans, qui n'est peut-être pas encore complètement pris dans l'engrenage d'une ambition politique irrépressible, et que tout en ayant une ambition politique sur le plus long terme, il l'a dit d'ailleurs, il ne renonce pas à la vie politique, mais je crois que le geste qu'il a eu de dire « je ne me présente pas », il faut le mettre à son actif.
Donc selon vous, cette décision, c'est une bonne chose pour le pays?
Elle sort le pays d'un blocage, un des blocages, il en reste d'autres, notamment ceux qui touchent à l'amnistie. Un certain nombre de candidats, y compris ceux qui sont ministres aujourd'hui, ont été condamnés par la justice et sont donc inéligibles. Ils attendent une décision d'amnistie et c'est un gros problème parce que la loi d'amnistie dit que les événements politiques entre 2002 et 2009 doivent être amnistiés. Or, un certain nombre de ces gens-là ont été condamnés pour détournement d'argent. Tous les voleurs condamnés exigent l'amnistie. Donc il faut repartir sur de nouvelles bases et le temps passe. Qui va décider que l'amnistie sera accordée à tel ou tel? On en est là, indépendamment de ce blocage Ravalomanana-Rajoelina qui est déjà levé.
À quoi ressemble du coup le paysage politique aujourd'hui sans ces deux hommes?
Le problème, c'est que ça va être une multiplication de candidatures qui n'ont aucun sens. On va vers des dizaines de candidatures de personnalités qui chacune se croit appelée à un destin national et qui n'a aucune envergure et aucune capacité. Il y a deux ou trois personnalités qui émergent mais qui sont condamnées et qui attendent l'amnistie. Les autres, avec tout le respect que je leur dois, sont des hommes, largement médiocres. Des nouveaux, il n'y en a pas, pour ainsi dire. Mais il y a énormément de leaders autoproclamés, chacun prétendant bien représenter l'ensemble de la population. On a 343 partis politiques. C'est l'état de la société globale. C'est une société en mutation qui cherche ses repères. La classe politique reflète cette incertitude, reflète cette difficulté de se situer par rapport aux vrais problèmes.